Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Et nous terminons cette semaine qui a essayé de débrouiller la différence entre la PMA et la GPA avec plusieurs approches que vous avez pu voir de philosophes, d'écrivains, de gens de terrain. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jacques Toubon, défenseur des droits, qui sur ce thème de la PMA et de la GPA a depuis longtemps travaillé, s'est exprimé. Et là, c'est en tant que défenseur des droits. Nous allons d'ailleurs essayer de creuser un peu ce que c'est que cette position de défenseur des droits à laquelle il a été nommé en 2014 pour bien comprendre les différentes interventions et les différents éclairages. Merci Jacques Toubon d'être avec nous sur France Culture.
Merci beaucoup de m'accueillir.
Alors, vous êtes bien sûr, vous avez fait l'ENA, vous êtes défenseur des droits, comme je le disais, nommé par François Hollande depuis juillet 14 pour 6 ans, non renouvelable.
Non renouvelable, donc, pour assurer notre indépendance.
Voilà, et puisque vous insistez beaucoup sur cette indépendance, pas d'instruction du gouvernement, pas d'instruction de l'administration, pas d'influence des lobbies.
Liberté d'esprit.
Liberté, voilà, c'est à ce titre-là que nous sommes heureux de...
Et naturellement fondée sur l'analyse juridique, et pas, simple, et pas sur des convictions
préétablies. Oui, vous avez une formation en plus de droit public bien connue, et vous avez un parcours politique que j'aimerais juste rappeler. Vous avez été maire du 13e arrondissement, vous avez été député, vous avez été ministre de la Culture et de la Francophonie, vous avez été garde des Sceaux et ministre de la Justice, et vous avez été député européen. Enfin, sur votre goût sur la culture.
Et j'ai contribué très fortement à créer quelque chose qui est de pleine actualité, le Musée National de l'Histoire de l'Immigration.
Voilà, j'y allais. Vous avez assumé la présidence du Conseil d'orientation de cette Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. On va dire que le défenseur a deux missions essentielles, défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l'égalité de tous et de toutes à l'accès aux droits. Alors c'est quand même une institution importante, vous avez 250 personnes je crois,
oui,
qui travaillent
c'est
avec
une,
vous.
D'abord c'est une autorité administrative indépendante, mais c'est une autorité constitutionnelle. Et nous avons donc une position, je crois, assez particulière qui fait que d'un côté... Nous sommes aptes à promouvoir l'égalité des droits, et notamment l'égalité dans l'accès aux services publics, mais pas seulement. Et nous le faisons à travers notamment les prises de position que je prends devant le Parlement. 90 000 dossiers traités l'année dernière, en 2017, c'est de prendre en compte les réclamations de nos concitoyens et d'essayer de rendre effectifs des droits qui... pour diverses raisons, quelquefois simplement, je dirais, mécaniques, n'ont pas été pleinement reconnus. Le défenseur des droits est aujourd'hui défenseur des enfants, c'est-à-dire que c'est lui qui est en France le mécanisme de suivi de la Convention internationale des droits de l'enfant, la fameuse convention de 1989, dont nous allons fêter l'année prochaine le 30e anniversaire, et qui est une des conventions peut-être les plus importante, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, pour la vie quotidienne dans nos démocraties. Parce que les droits des enfants, une seconde simplement...
Non, mais on va parler des enfants, justement, y compris les enfants PMA et GPA.
Je fais dans 15 jours mon rapport annuel sur les droits des enfants. Cette année, ce rapport sera consacré aux tout-petits, c'est-à-dire aux enfants de 0 à 6 ans. Et ce que je veux montrer, c'est que les droits des enfants... ça commence au premier cri, que les enfants ne sont jamais des objets, jamais, qu'ils ont des droits, le droit de s'exprimer, le droit d'être reconnu, d'être respecté, etc. Et vous parlez, dans des époques récentes, par exemple de Françoise Dolto, et il est clair que la manière dont Françoise Dolto a innové dans la prise en charge des petits-enfants est très signifiante de cette reconnaissance des droits. Donc, je suis défenseur des enfants. Et
c'est
dans
immense,
ce cadre-là, oui. Je suis amené, par exemple, sur des sujets aussi fondamentaux pour les droits de l'homme que les textes d'éthique biomédicale à donner des avis et en particulier des avis au Parlement lorsqu'il est saisi de projets de texte, comme c'est le cas aujourd'hui.
Alors effectivement, vous avez été auditionné le 9 octobre à l'Assemblée nationale, je veux dire, sur cette thématique. Thématique que vous portez, dont vous vous intéressez depuis longtemps, puisque nous sommes connus en 94 au moment de la première loi de bioéthique à l'Assemblée nationale.
C'est la première fois qu'on a dit il faut traduire des principes juridiques, des principes moraux, il faut savoir quelles sont les limites de la connaissance, de l'exercice médical, etc., dans un texte législatif. Ont été votées en juillet 1994 les trois lois de bioéthique qui constituent toujours la base, puisque d'année en année, on révise les lois de 94, en fait.
Alors, venons-en justement maintenant au contenu autour de la PMA et de la GPA. Et tout d'abord, j'ai envie de dire, cette ouverture dont nous discutons pas mal dans différents médias, mais aussi dans le gouvernement, de la PMA à des couples de femmes ou à des femmes seules. Donc, vous qui êtes, centré sur le droit, la demande d'égalité, on voit très bien que si cette ouverture se fait à ce moment-là, est-ce qu'il y a une inégalité pour les hommes, d'où la revendication de la GPA, ou est-ce que c'est d'un autre registre ? Voilà les questions sur lesquelles j'aimerais vous entendre, et aussi sur le fait de que ces modalités de l'affiliation sont peut-être dans ce cadre-là, d'une femme seule ou d'un couple de femmes, peut-être à modifier. Jacques Toubon.
Ce qu'on appelle, donc, de manière générale, l'ouverture de la PMA. Donc la PMA, aujourd'hui, texte de 94 avec toutes ces modifications, est autorisée, après une procédure d'ailleurs qui est une procédure juridique assez complexe, pour les couples, un homme et une femme, qui ont une indication médicale de stérilité et de non-fécondité et en dessous d'un certain âge. La question est-ce que l'on doit passer de ces dispositions, qui sont des dispositions que je qualifierais de thérapeutiques ?
On est dans le domaine médical.
Médical. Est-ce que l'on doit passer à une loi qui fait face à une question de société beaucoup plus globale et qui est celle de la volonté de tous les hommes et de toutes les femmes, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent, quelle que soit leur orientation sexuelle, quel que soit le couple qu'ils forment avec quelqu'un du même sexe ou avec quelqu'un de l'autre sexe, la possibilité de conduire en utilisant les techniques de la PMA, un projet parental. C'est ça la question.
Et que répond
je suis un des premiers. Je suis un des premiers en tant que défenseur des droits. En juillet 2015, il y a déjà donc maintenant plus de 3 ans, à avoir c'était les circonstances qui commandaient, dit à la mission sénatoriale qui s'intéressait sur ce sujet et qui était à l'époque présidée par Catherine Tasca. À cette mission sénatoriale qui s'interrogeait sur « faut-il faire évoluer ?» Je fais une parenthèse d'ailleurs. Le Sénat, ce qui pourra paraître étonnant à certains, a souvent été plus avancé que l'Assemblée nationale sur ces sujets. Et je rappelle que dans la révision des lois, de la loi de bioéthique qui est intervenue en 2011, le Sénat avait déjà voté l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Ce qu'on ne sait peut-être pas et qu'on n'a en tout cas pas noté. En tout cas, devant cette mission, je dis, au nom de l'égalité des droits entre tous les hommes et toutes les femmes, je pense qu'il faut ouvrir la PMA. Au même moment d'ailleurs, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes a pris, c'était à peu près au même moment, en juillet 2015 je crois, la même position. J'ai pris cette position, encore une fois, au nom de l'égalité. Ce qui est intéressant, c'est de noter que le CCNE, le Conseil consultatif national d'éthique, dans son avis de juin 2017. Il a dit, on peut le faire, il ne faut pas s'y opposer. Il a, lui, à ce moment-là, retenu une autre notion. Il a fait appel à une notion que je qualifierais de davantage, comment dire, est-ce que je peux dire médicale, en tout cas moins juridique. Il a appuyé sa position sur la souffrance qui pouvait exister, une souffrance induite par une infécondité résultant d'orientation personnelle. C'est-à-dire que il a dit, il faut reconnaître le droit à des personnes qui forment des couples homosexuels, et c'est leur choix, et il faut le respecter, et d'ailleurs la loi sur le mariage pour tous l'a dit pleinement, il faut que ces personnes ne souffrent pas de être oui. empêchées...
Une discrimination, on veut dire.
Voilà. Et donc, les deux approches, cette approche CCNE, sur la souffrance née de l'infécondité, puisque par définition, il ne peut pas y avoir de reproduction dans ce cas-là, la conjugaison de cette notion et de celle que moi j'ai fait prévaloir et que font prévaloir la plupart d'ailleurs de ceux qui sont favorables à l'ouverture de la PMA, c'est-à-dire l'égalité entre tous, entre toutes les conditions, entre toutes les orientations, l'égalité de pouvoir en quelque sorte choisir sa vie et le projet parental, c'est ça qui a fondé ma position, et encore une fois, je la défends depuis. Maintenant, comme vous l'avez très bien dit, il faut être dans ces affaires tout à fait conséquent, c'est-à-dire que si on ouvre la PMA, quelles conséquences ça peut avoir, et en particulier, quel type de filiation pour les femmes qui sont, en ce qui concerne les femmes seules, il n'y a pas de problème, la loi règle déjà la situation. Mais, en ce qui concerne les couples de femmes, il y a une hypothèse qui est celle...
Exactement, peut-être, oui, on reviendra sur la filiation, mais j'aimerais, par rapport à cette prise de position, toujours en tant que défenseur des oui. droits, comment on peut, si, comment on répond aux hommes en couple homosexuel qui souhaitent avoir un enfant? Est-ce que c'est une question de droit? Également, est-ce que donc ça veut dire que l'ouverture aux femmes en couple homosexuel signifie automatiquement dans quelque temps l'ouverture pour la GPA, pour parler clair? Ça c'est la première question. La deuxième question, toujours sur le niveau des droits, quid des enfants justement et du problème des enfants en particulier? Donc là on aborde la filiation dans les couples de femmes, mais aussi la transcription ou pas la transcription pour les enfants nés d'une GPA faite à l'étranger, oui. puisqu'en France, c'est
interdit. Sur ce sujet, donc, je reprends ce que je disais sur la filiation. Sur la filiation, il y a probablement la méthode que beaucoup de juristes préconisent. J'ai vu que, notamment, notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, il y a quelques jours, semble avoir montré sa faveur aussi pour cette formule. C'est celle d'une déclaration préalable de filiation. C'est-à-dire que, avant que l'opération de PMA ne soit faite, on réglerait cette question de
déclaration filiation. Anticipée.
Ce qu'on appelle déclaration anticipée. Déclaration anticipée. C'est probablement une bonne formule. Alors, évidemment, il y a l'autre formule, qui est la formule belge, c'est-à-dire filiation automatique. La comaternité et la filiation automatique, c'est la formule belge. Mais moi, je pense plutôt à la déclaration anticipé. S'agissant de droits des enfants nés de GPA, qui est effectivement à la fois un débat de principe et d'autre part et de conviction et d'autre part une question techniquement très difficile. Il est certain qu'aujourd'hui, ce qui a été décidé par la Convention, par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de cassation en France reconnaît la filiation biologique, c'est-à-dire en fait la filiation avec le père, et permet de transcrire l'acte d'état civil sur ce point. La question est, est-ce qu'il faut, comme un certain nombre de couples naturellement le demandent, est-ce qu'il faut reconnaître la filiation d'intention, c'est-à-dire le rapport de filiation avec le parent qui, biologiquement, n'est pas le parent. Alors, d'abord, il y a une situation particulière que je veux citer, et souvent on n'en parle pas, c'est celle dans laquelle la mère porteuse a porté les ovocytes de la mère dans le couple. On se trouve dans un cas où il y a un élément de filiation biologique, c'est pas le père, mais c'est un élément de filiation biologique.
Oui, ceci dit, dans le don d'ovocytes, on se retrouve avec aussi une filiation biologique possible, donc qu'on ne fait pas apparaître.
Bien entendu.
C'est celle qui accouche.
On introduit, voilà.
Qui est la mère.
Mais il y a l'œuf, et puis il y a la femme qui porte, et la gestatrice qui est... Et donc, mais... J'écarte ce cas particulier et je dis que sur la filiation d'intention, moi, de point de vue du défenseur des droits, je pense que la question se pose. La Cour européenne de Strasbourg, dans ses fameux arrêts de juin 2014, ne l'a pas écarté, elle ne l'a pas traité. La Cour de cassation a suivi, comme je viens de le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, la Cour de cassation est saisie d'un certain nombre de cas qui l'amènent à se poser des questions. Et le 5 octobre dernier, il n'y a pas longtemps, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a adressé une demande d'avis consultatif à la CEDH sur le statut, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Sur le statut de la mère d'intention. C'était d'ailleurs très intéressant parce que c'est la première application d'un nouveau protocole qui permet aux cours suprêmes nationales de demander des avis à la Cour européenne de Strasbourg. Elles peuvent le faire vis-à-vis de la Cour dite de Luxembourg, c'est-à-dire la Cour de justice de l'Union européenne qui est à Luxembourg, elle ne pouvait pas le faire jusque-là vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Elles peuvent le faire. Donc, qu'est-ce que dit la Cour de cassation ? En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil les actes de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui en ce qu'il désigne comme étant sa mère légale, la mère d'intention, alors que elle dit donc le droit actuel, on refuse de le transcrire, alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le père d'intention comme père biologique de l'enfant, un état parti excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? L'article 8, c'est le droit à une vie privée, familiale, etc. À cet égard, Y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la mère d'intention, c'est le cas que je disais, c'est-à-dire les ovocytes de la mère d'intention, dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à cet égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ? Autrement dit, la Cour de cassation dit à la Cour européenne. Est-ce que ce que j'ai décidé en 2017, c'est-à-dire que, dans ce cas-là, on pouvait reconnaître une filiation à l'enfant, une filiation d'intention, par l'adoption, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller plus loin et reconnaître un vrai parent d'intention ? Je trouve que ce que je viens de vous lire est une ouverture, de mon point de vue, tout à fait positive, parce que il est clair que le fait de poser la question veut dire que la question se pose. Et si la question se pose, ça veut dire, René Friedman, que on est en train d'envisager une autre interprétation du fameux article 47 du Code civil.
C'est-à-dire
le fameux article qui dit la mère, c'est celle qui a accouché. C'est-à-dire cet article qui fait reposer la filiation sur une réalité biologique. Or, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut interpréter cet article 47 d'une certaine façon sur cette base-là, c'est-à-dire une interprétation purement biologique. On peut lui donner aussi une interprétation juridique, si j'ose dire. On peut essayer de dire il y a une réalité juridique qui va au-delà de la réalité biologique. Et puis, on peut peut-être lui donner une réalité sociologique qui va encore au-delà de la réalité juridique. Et c'est là que se pose la question de la mère d'intention. Et c'est si vrai, d'ailleurs, que l'année dernière, un tribunal qui n'est pas n'importe quel tribunal, le tribunal de grande instance de Nantes, qui se trouve au titre de l'état civil, vous savez, des étrangers compétents, des personnes à l'étranger compétents, le tribunal de Nantes a adopté cette interprétation, c'est-à-dire on peut faire une interprétation de l'article 47 qui reconnaît la filiation, le parent d'intention. La cour d'appel de Rennes a infirmé cette position du tribunal, mais un jour, la cour de cassation se trouvera être amenée à trancher à partir de l'avis qu'elle a demandé à la Cour européenne.
Donc on va attendre l'avis de la Cour européenne
Je pense que dans le débat, qui va avoir lieu, c'est une question très importante qui va être mise en discussion.
Ceci étant,
comme vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a souhaité que avant que la loi même ne soit déposée, que le projet de loi ne soit déposé, il y ait un groupe de travail entre députés et sénateurs. Et donc là, il y a la mission dont le rapporteur et le professeur Touraine qui va donner son rapport à l'Assemblée nationale. Mais il va y avoir au-delà ce groupe de travail. Et je pense que dans une telle instance, comme dans une sorte de commission spéciale parlementaire, on peut faire entrer. C'est ça qui me paraît décisif dans cette affaire. On peut faire entrer toute la complexité des questions. Si on veut donner à ces questions des réponses simplistes, on est sûr que le débat, à ce moment-là, sera un débat d'invectives. La seule façon de trouver des vraies solutions, c'est de faire entrer toute la complexité des différents paramètres.
Et pourquoi ne pas rester sur la réalité ? C'est-à-dire que, finalement, effectivement, la femme qui a, il faut une unité entre le don d'ovocytes où la génétique vient d'ailleurs et l'éventualité d'une mère porteuse qui est interdite en France mais qui est réalisée ailleurs. Il faut qu'on ait une unité de point de vue, c'est-à-dire qui est la mère. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas deux mères? Et c'est un peu la position du Conseil d'État, si j'ai bien compris,
oui,
qui évoque le fait de transcrire. Le fait qu'il y a une femme qui a participé à la venue au monde par sa biologie, on va dire, qu'elle soit ovocytaire ou qu'elle soit utérine, et une autre femme qui l'accueille en tant qu'intention, celle même qui a bénéficié du don d'ovocytes, c'est la même, mais celle qui aurait bénéficié d'une GPA serait aussi notée en tant que telle.
C'est l'interprétation que je qualifierais de sociologique de l'article 47. Et pourquoi est-ce que, de mon point de vue, au titre de la pleine égalité et des droits, parce que c'est ça qu'il s'agit, des droits de ces enfants, il faut aller vers cette filiation d'intention, c'est mon point de vue, c'est parce que la procédure actuelle, en gros qui passe par l'adoption, elle crée toute une période, qui peut être très longue, d'insécurité juridique pour ces enfants nés de GPA. Et le Conseil d'État, d'ailleurs, l'a très bien noté dans son rapport de juillet 2018.
On va prendre une pause pour écouter un petit peu de musique jazzy, puisque c'est votre choix, Jordu, avec Max Roach à la batterie et Brown Clifford à la trompette.
France Culture, Matière à penser, René Friedman.
Voilà, en partenariat avec le quotidien du médecin, et après ce bon morceau de jazz, nous revenons sur notre thématique PMA-GPA, filiation, avec Jacques Toubon, défenseur des droits. Et effectivement, la question qui est posée, c'est que dans certaines modes de conception, il y a un apport biologique qui est différent, c'est-à-dire des ovocytes qui viennent d'une femme et une autre femme qui va porter l'enfant, que ce soit dans le don d'ovocytes, que ce soit dans la GPA, où il peut y avoir une situation identique. Et il va falloir trancher. Est-ce que on aborde la vérité, c'est-à-dire une vérité qui est plus complexe que celle qu'on connaissait jusqu'à présent, puisqu'il y a plusieurs personnes qui participent à la venue au monde d'un enfant, ou est-ce qu'on reste sur les grands principes, on est certain de la mère, mais pas forcément du père, hein, c'était le principe. Justement, on va parler du père.
Depuis, on parlait tout à l'heure du début des discussions, en 1992, le rapport du Conseil d'État, le rapport Brébant de 1988, le rapport Lenoir de 91, de Noël Lenoir en 1991, etc. On a commencé à évoquer ces questions, et on est peu à peu, depuis donc maintenant 25 ans, sorti de la fiction. La fiction, c'était la fiction...
Faire comme si.
Comment dirais-je, bourgeoise, fait comme si. Voilà, bon, c'était l'idée que... ni vu, ni connu.
Et enfin, ni connu, donc ni vu.
ni connu, ni vu, on faisait comme si. La société d'aujourd'hui, à mon avis,
veut plus
est au contraire une société de transparence et, je dirais, de lucidité et de vérité. Donc, à partir de là, la suite de l'évolution qu'on a connue depuis 25 ans me paraît être logiquement de regarder la réalité et de s'éloigner de la fiction. Je pose la question en termes sociétal. Quelle est l'utilité de la fiction? Quel intérêt la fiction protège-t-elle? Et là, je parle en particulier comme défenseur des enfants. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, en 2018, en France ou en Europe, le droit des enfants, l'intérêt des enfants, ça soit de continuer à porter des fictions et des fictions et d'ajouter des fictions juridiques à des fictions juridiques. C'est pour ça que je dis que, au titre de l'article 47 du Code civil, une interprétation réelle doit être faite, comme l'a fait le tribunal de grande instance de Nantes, plutôt qu'une interprétation fictionnelle qui consiste à dire la mère, c'est la mère qui a accouché, ce qui pose naturellement toute la question de la reconnaissance de deux mères. Donc, moi pour ma part, l'égalité d'une part et la vérité d'autre part me paraissent être, une exigence des droits de l'homme et de l'autre côté, une exigence de la société. Mais alors, bien entendu, c'est difficile,
bien sûr,
heurte des convictions, mais je crois que, notamment les politiques, moi je ne suis pas un politique, je ne fais pas les lois, mais les politiques doivent avoir le courage intellectuel et le courage moral, d'affronter ces questions.
Alors, quid, bien sûr, la question qui tombe sous le sens après, de l'anonymat du donneur ou de la donneuse. Bien sûr, tout le monde est d'accord aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment un consensus pour dire que les données non identifiantes doivent pouvoir être mises à la disposition, parce que ne serait-ce que sur un plan médical, s'il y a des risques ici ou là. La vraie question qui est plus délicate, c'est celle, un enfant, s'il apprend par ses parents, parce que on est bien d'accord qu'il n'y a que ses parents qui peuvent l'informer de son mode de conception. Sauf si c'est transcrit dans l'état civil, parce que s'il voit qu'il a deux mères, il le saura. Mais pour en ce qui concerne, par exemple, le don de sperme, ça c'est pour l'instant c'est pas marqué. Et donc il peut être au courant et à ce moment-là décider éventuellement, pourrait-il, enfin dans certains pays, de remonter à l'identité du donneur.
Quelle
est votre position, Jacques Toubon?
Je pense que moi je suis sur une position Vous savez que le Conseil d'État a pris, avant la révision, en 2009 et puis maintenant, deux positions différentes. Moi, je suis pour une position, si j'ose dire, intermédiaire entre les deux. Pourquoi je parle du Conseil d'État ? Parce que dans ces questions d'éthique biomédicale, c'est que la méthode française est quand même, je me permets de le dire, pour une fois faisons un peu de cocorico, la méthode française est quand même une assez bonne méthode, hein, parce que la préparation de toutes ces thèses, alors ça prend beaucoup de temps, hein, la première révision, 94-2004, hein, ça a mis 10 ans, ensuite la deuxième, 2004-2011, ça a mis 7 ans, mais nous avons des travaux sérieux, notamment les travaux du Conseil d'État, qui sont faits à la demande du gouvernement. Donc, ce que je dis, moi, c'est que, et c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, je pense que il faut un régime qui permette de combiner l'intérêt de l'enfant, comme on vient de le dire, à obtenir à sa majorité, à 18 ans, des données non identifiantes, et d'autre part, la possibilité d'une levée totale de l'anonymat à la demande de l'enfant majeur avec un consentement du donneur au moment du don. Autrement dit, pour moi, ou bien on s'en tient aux données identifiantes qui ne permettent pas d'arriver à l'identité, auquel cas je pense que il n'y a aucune difficulté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la position des Sécos, par exemple, qui a pris très officiellement, la Fédération des Sécos a pris très officiellement position en faveur de cette... Ou bien...
Mais la demande des enfants n'est pas celle-là.
Attends, justement. Et si l'on veut aller vers la demande qu'expriment beaucoup d'enfants, auquel cas, je pense que il faut poser au départ le consentement du donneur, donc il y aura des donneurs qui consentiront à ce qu'on aboutisse à des données qui permettent de rechercher l'identité, et il y aura des donneurs qui le refuseront, et à partir de ce consentement du donneur, pour les cas où le donneur aura donné son consentement, l'enfant devenu majeur à 18 ans, pourra accéder à son
identité. Mais est-ce que ça veut
identité.
Dire que le couple qui va avoir appel au don de sperme va choisir des donneurs qui ouvrent l'identité, d'autres qui ne l'ouvrent pas
Ou bien,
parce que ma propre réflexion...
Vous savez très bien, vous savez personne que dans la réglementation, ils ne peuvent pas le savoir, le couple, au départ.
Non, mais il pourrait demander à bénéficier.
Ah oui, il pourrait demander à dire je veux un donneur qui a donné son consentement.
Bah oui, voilà. Et à ce point que certains vont à l'étranger, là où ça se produit,
bien sûr.
Et d'autres, justement, restent dans la France ou l'Espagne pour cela. C'est parce que c'est anonyme. Non, moi, ma réflexion, c'est la suivante. Il y a 18 ans, donc, qui séparent la position du donneur et éventuellement la révélation, au moins,
parfois
plus.
Quelquefois plus.
Est-ce que le donneur qui s'est... Si on demandait à tous les donneurs de s'engager vers cette voie-là, de lever leur identité possible, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réflexion 18 ans ou 25 ans plus tard ? Je fais référence au CNAOP. C'est-à-dire, vous savez, quand les accouchements sous X et la possibilité pour un enfant, même le CNAOP va rétrospectivement redemander à la mère si elle est toujours d'accord pour garder son anonymat. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir une évolution, parce que 18-25 ans, c'est long.
On peut très bien imaginer, effectivement, si j'ose dire, deux stades de consentement.
Voilà, exactement.
Un stade avant l'opération de DNA.
Qui lui serait pour tout le monde, parce que sinon...
Et un stade ensuite... Encore une fois, il y a deux positions aujourd'hui, hein, la Fédération des Sécos, je l'ai dit, données non identifiantes, le Conseil d'État, qui a fait, je le rappelle par rapport à sa position de 2009, un grand pas c'est levée de l'anonymat. La question est que, comme vous le savez mieux que personne, René Friedman, beaucoup de gens... s'interroge sur l'impact de la levée de l'anonymat. Et, par exemple, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit « Ah oui, mais ça va considérablement réduire la propension au don. » moi, je voudrais relever, par exemple, il y a une démographe de l'INED, il s'appelle Élise de la Roche-Brochard, qui a écrit « L'adoption d'un modèle d'assistance médicale à la procréation plus en adéquation à les valeurs actuelles de la société », c'est ce que nous disons depuis le début de cette émission, « qui prône de plus en plus la reconnaissance et l'égalité entre les familles dans leur réalité plurielle, il est probable que cela suscite de nouvelles vocations de donneurs. »
On est d'accord.
« Au titre d'une sorte de participation à un projet de société. » Et ça, ça me paraît très important.
Absolument, je crois que, enfin, vous avez très bien résumé cette attirance vers la transparence et ne plus faire comme si, qui s'impose de plus en plus avec la protection des uns et des autres. C'est pour ça que je trouve que la double possibilité pour un donneur de dire oui et de confirmer son oui ultérieurement ou de l'infirmer, certes ça plaira pas à tous les enfants nés de cette façon qui ne pourraient pas, mais aussi les donneurs peuvent disparaître, peuvent mourir, c'est pas une garantie de pouvoir trouver son origine, mais ça me semble effectivement aller tout à fait, enfin ce qui me concerne, dans le sens d'une liberté individuelle. Alors bien sûr, bon, on n'a pas le temps.
Et de cette autonomie de la volonté, je rappelle que tous les textes, vous vous en souvenez, quand on a commencé dans les années 80 à réfléchir à tout ça, c'est quand on a dit on veut introduire dans le Code civil à la fois des principes, comme par exemple l'intangibilité, le caractère non commercial du corps humain, etc., des principes, et en même temps bien traduire dans ces domaines l'autonomie de la volonté, qui est quand même la grande conquête des Lumières.
Bien sûr. Une question importante, puisqu'on a abordé la question des enfants nés après GPA, et pourtant on interdit la GPA. Donc la question qui vous est posée en tant que défenseur des droits, c'est, mais si les femmes ont des droits pour l'ouverture de la PMA, quid des hommes ? Qu'est-ce que vous répondez ?
C'est une vraie question à laquelle je me permettrai de ne pas répondre, parce que le défenseur des droits n'a pas élaborer de réponse sur cette question, c'est vrai, et je sais qu'elle est posée. Peut-être que dans une prochaine émission, je dirai l'état de mes réflexions.
Alors,
mais pour l'instant, c'est vrai que, pour dire les choses comme elles sont, c'est un argument qui est utilisé contre, naturellement, l'ouverture. Et en ce sens, je trouve que c'est une question, c'est ce qu'on appelle, vous savez, dans les débats parlementaires, un argument de séance, c'est-à-dire quelque chose qui fait mouche sur le moment. Voilà. Alors, je me pose la question et je travaille là-dessus.
Parce que bon, toute cette semaine, donc, on a eu une discussion avec plusieurs intervenants sur cette thématique-là, et beaucoup sont intervenus pour dire que c'est droit contre droit, parce que il y a un droit, il n'y a pas de droit à l'enfant, on est bien d'accord, mais il y a un désir pour des couples homosexuels hommes à avoir un enfant, ce qu'ils peuvent toujours faire de façon différente et artisanale, on va dire. Par contre, il y a les droits de la femme, du corps de la femme, qui est utilisé ou pas. Et c'est là, bien sûr, c'est une question sensible.
C'est là le principe de non-marchandisation.
Voilà. Bien entendu. Et donc, on se heurte. Donc là, je pense que vous aurez à prendre position droit contre droit. C'est-à-dire droit, égalité des droits selon le sexe, mais
savez,
aussi tenir compte de l'utilisation du corps de la femme.
On a des réponses. Je parlais de la position prise par le Sénat dans la révision de 2011, où il était pour l'ouverture de la PMA. En 2008, il y avait eu un rapport au Sénat qui proposait une légalisation encadrée de la GPA en France. Donc la question n'est pas une question outrecuidante ou scandaleuse.
Non, je pense que ça fait tellement de temps qu'on tourne autour qu'il faut effectivement
prendre une position. Le défenseur n'a pas de position sur ce sujet.
Mais tenir compte, comme d'habitude, et ça je crois que je me permets de dire que c'est, en tout cas c'est ma position, c'est tenir compte des plus vulnérables et de ceux qui peuvent être utilisés, quel que soit le projet fabuleux.
C'est pour ça que je suis, alors fondamentalement, là-dessus c'est la position des défenseurs de droit, pour l'interdiction. Parce que, je pense que c'est la voie à non seulement la marchandisation, la commercialisation, mais c'est la voie, d'une certaine façon, à l'exploitation de ceux qui sont dans le besoin et de celles qui sont dans le besoin.
C'est ça le problème. En tous les cas, Jacques Toubon, merci de votre éclairage. Nous avons bien sûr énormément encore de questions. Il faudra qu'on se revoie, que ce soit le don de vos
cycles,
le double don, l'insémination post-mortem, l'autoconservation des ovocytes, que nous abordons bien sûr dans cette révision des lois. Voilà, plein de sujets pour nous donner l'occasion de nous revoir. En tous les cas, merci à Catherine Denet, Sandrine Chaperon et Dany Journeau, Nino Lima et Manuel Couturier. Vous pourrez reprendre toutes ces informations sur le site franceculture.fr et les réécouter autant que vous voulez, puisque c'est quand même assez ardu, donc on peut reprendre ça calmement en écoutant donc le défenseur des droits. Nous terminons ainsi notre série PMA-GPA, les différences, puisque nous l'avons suffisamment dit, souvent il y a une confusion qui est intentionnelle, pour faire passer l'un pour l'autre, mais nous avons essayé d'y voir un peu plus clair et de parler vrai, de parler de façon transparente. Nous nous retrouvons bientôt pour parler du prochain épisode, sexualité et spiritualité.